Ce matin, nous serons dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Lorsque nous arrivons à cet Épître, ainsi que l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Colossiens, il nous est toujours bénéfique de nous souvenir du contexte dans lequel Paul se trouvait. Paul, ici, quand il écrit Philippiens, il est en prison. Et probablement et sûrement à Rome, c'est son premier emprisonnement. Il sera relâché pendant un certain temps, et puis c'est là où, pendant son relâchement, et bien, il va écrire un Timothée. Et puis il sera de nouveau mis en prison, et c'est là où c'est la dernière fois. Mais c'est ici sa première fois en prison à Rome, et il prend le temps parmi la multitude. Bien sûr, de ses activités, les gens qui côtoient et tout ce qui se passe, il prend le temps quand même de se renseigner sur les églises et de leur écrire des lettres. Et en voilà une, cette lettre, cette épître aux Philippiens. Et chapitre 4, il y a quelques versets qui vont nous intéresser ce matin. Mais avant de les voir, j'aimerais tout simplement parler pendant quelques instants. Dans un sens, des émotions, des attitudes, des pensées, des sentiments. Parce que n'est-il pas vrai que dans notre vie, à travers chaque jour, ben, nous avons ben, des sentiments, des choses qui nous viennent dans la vie. Parfois, ce sont des bonnes choses. Je sais que chaque fois que je vais sur Facebook et je vois des photos de ma nièce, des petites vidéos que ma belle-sœur met, ben, là, le sentiment, c'est de la joie. Et je pourrais vous en parler pendant des heures. Et voilà, là, à la fin de cette semaine, elle aura déjà 15 mois. Donc, elle grandit vite. Et quand je vois ça, ben, voilà, la joie, le bonheur, je suis content. Par contre, quand je vais sur d'autres pages et je vois la misère, la souffrance qui est dans le monde, les chrétiens persécutés, je peux vous dire que là, c'est la tristesse qui s'installe. Et on se dit, mais cette persécution contre les chrétiens, ce n'est pas normal et tout. Et pourtant, ils subissent cela. On va plus loin et puis on va tomber sur d'autres histoires où ben, la justice des hommes est bafouée, où quelqu'un qui est coupable, ben, on le met en liberté, et quelqu'un qui est innocent, ben, il est encore en prison. Et on se dit, mais la justice, et là, ben, c'est ce sentiment de vouloir, dans un sens de vengeance, de vouloir régler les comptes, non, rétablir cette justice, ces sentiments-là, comment ça à nous prendre. Et tous ces sentiments, ainsi que bien d'autres dans la vie, ben, viennent. Ça fait partie de notre vie. Il ne faut pas nier ces sentiments. Dieu nous donne des sentiments. C'est Dieu qui nous a créés avec des attitudes, des sentiments, des pensées, ces choses que nous ressentons au cours de chaque jour. Et du coup, en tant que chrétien, il faut savoir ben, faire face à cela et même maîtriser. Et en fait, c'était le souci de Paul en écrivant aux Philippiens, et spécifiquement dans le verset qui nous intéressera ce matin. C'est chapitre 4, verset 8, un verset que vous avez certainement déjà entendu, que vous avez lu, que peut-être certains vous l'avez mémorisé. Mais ce verset 8 qui nous dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est sur cela que nous allons parler et réfléchir ce matin. Avant d'aller plus loin, prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous voulons que ce soit toi qui nous parle, que tu touches notre cœur, que nous ne restions pas insensibles et indifférents, mais au contraire, que nous puissions te laisser agir à travers ta parole puissante dans notre vie. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, nous revenons au début du verset, et c'est vrai, cette petite expression « au reste ». Donc là, Paul, il avait écrit pendant les trois premiers chapitres aux Philippiens, à montrer un ensemble de choses. Et même le début de chapitre 4, Paul, il règle certaines choses, notamment au verset 2, il paraît que deux sœurs dans l'église avaient des différends. Et il dit, voilà, j'exhorte ces deux sœurs à l'harmonie, à l'unité. Puis dans les versets qui suivent, il donne un ensemble de ce qu'on va appeler des commandements. Et là, il dit au reste, chapitre, verset 8, non pas qu'il ait terminé tous les titres, parce qu'il reste jusqu'à la fin de ce chapitre, mais maintenant, parmi les dernières enseignements, il va donner dans cet épître, il dit au reste. La fin de toute chose, j'ai donné mon enseignement, mais maintenant, j'arrive à ceci. Et il est intéressant, il dit au reste, frère. Au reste, frère. Il parle, bien sûr, avec chrétiens. Paul est entièrement convaincu que ces gens à Philippe, auxquels il écrivait, étaient des chrétiens. C'était des gens qui avaient accepté dans la simplicité Jésus-Christ comme leur sauveur. Il y avait parmi eux, notamment Lydie, donc cette femme qui était là, qui avait reçu Paul et Silas. Il y avait notamment le geôlier, qui lui s'était converti avec sa maison, et bien sûr plein d'autres qui s'étaient joints à ce groupe. Et Paul leur écrit en disant, voilà, vous êtes mes frères. Nous sommes cette famille en Christ. Et si tel est le cas, voilà comment vous devriez comporter et plus exactement penser, comme on va voir. Et lorsque nous voyons cela, on voit que, bien sûr, cela s'applique à nous. Paul, il a écrit il y a presque 2000 ans maintenant, et ça peut nous sembler un peu lointain, ça peut nous sembler comme des circonstances particulières, on ne vit pas exactement les circonstances des gens de Philippe, et pourtant, la vérité demeure. Et je suis convaincu, et j'espère que vous l'êtes aussi, que nous avons autant besoin de cet enseignement aujourd'hui que les Philippiens en avaient à leur époque. Parce que eux, bah oui, ils subissaient la persécution. Paul et Silas même étaient passés par là, souvenez-vous. C'est là où ils ont été battus, jetés en prison, injustement. Là, ils ont chanté dans cette prison, et Dieu les a délivrés. Même l'Église, là, à Philippe, a connu, après le départ de Paul, certaines persécutions, les chrétiens pas toujours bien accueillis, pas toujours bien compris. Et Paul les encourage, non, il faut continuer, et voilà ce qu'il faut. Et du coup, aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes pas toujours compris. Les gens qui disent, mais vous vous levez plutôt tôt, le dimanche matin, vous allez à l'église, là, vous vous donnez pour l'église, vous donnez de l'argent, vous donnez votre temps, ben, c'est quoi ça? C'est une perte de temps, c'est un peu pour rien. Nous voyons autour de nous, on a des pressions du monde pour mettre nos avis et tout ce que nous voulons en avant, c'est chacun pour soi. Les Philippiens faisaient face à cela également, et nous aussi, et il nous faut cet enseignement ici. Et Paul dit, au reste, frère, et puis il va établir une liste de certaines choses que nous allons voir un peu dans les détails. Et puis il dit à la fin, sois l'objet de vos pensées. Et c'est vers ça que lui il va. Donc il établit cette liste, mais en réalité, cette liste ne sert que nous emmener à ce point de nos pensées. Donc voilà, regardons cette liste pendant quelques minutes, parce que ce que Paul dit est quand même très important. Il dit que tout ce qui est vrai, et combien nous avons besoin de cela aujourd'hui. Parce que quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qui est vrai? Quelle vérité? La nôtre? La vôtre? La leur? La vérité, c'est quoi? C'est chacun a sa vérité. Oui, vous pouvez croire cela, mais bon, moi, je crois ceci. Et n'est-ce pas l'attitude aujourd'hui? C'est chacun a raison. Et on évolue, bon, le temps, il évolue, et la pensée des gens, elle évolue. On est maintenant plus sophistiqué, on est plus intelligent, on est plus avancé. N'est-ce pas ce que nous entendons autour de nous? Et Paul dit, mais que tout ce qui est vrai. Et bien sûr, vrai pour le chrétien veut dire ce qui est conforme à la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu, comme Jésus va dire dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifiez-les par ta parole est la vérité. Paul dit que tout ce qui est vrai, ce n'est pas juste une petite partie de la vérité, mais que tout ce qui est vrai, là, soit l'objet de nos pensées. Et cela veut dire que nous devrions nous garder dans la vérité, ce qui implique s'éloigner du mensonge, s'éloigner des demi-vérités, qui sont, à mon avis, pires et plus désastreux que les mensonges. On a souvent la possibilité de voir les mensonges, ça c'est quand même assez flagrant. Les demi-vérités, les vérités partielles, ben, voilà, ça c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, le chrétien est appelé à se tenir dans la vérité. Et puis, il continue et il dit tout ce qui est honorable. C'est un mot quand même assez fascinant. Parce que ce mot veut dire en fait quelque chose qu'on va, oui, honorer, mais c'est de ce mot-là aussi que nous avons le mot révérend. Donc c'est un mot peu commun, mais un mot qui existe, ce mot révérend. Et en fait, c'est plus l'idée, ce qui est honorable, certains associent l'idée de majestueux, ce qui est glorieux, ce qui est, digne, ce qui est honorable. Et lorsque nous regardons autour de nous, je vous lance le défi de trouver beaucoup de choses qui sont honorables. Nous voyons beaucoup de choses qui sont déshonorables, si on peut le dire, des choses où ce n'est pas du tout ni à la gloire de Dieu, ni au bon sens, ni aux coutumes et tout. Non, il y a autour de nous beaucoup de choses qui ne sont pas honorables. À la télé, à la radio, si vous l'écoutez. Je connais un frère, bah, lui, il reste attaché à sa poste de radio, il écoute tous les jours. Mais voilà, télé, internet, dans les discussions, le journal, bah, il y a très peu de choses qui soient honorable. Et les chrétiens doivent se garder de cela, doivent se garder avec ce qui est honorable. Les situations, quand on parle des uns des autres, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde, est-ce honorable? Non. Et Paul dit que tout ce qui est honorable, encore une fois, pas juste un peu, pas juste quelques fois, la plupart du temps, mais tout ce qui est honorable. Et même s'il y en a de moins en moins, comme ce monde va de mal en pis, il y a quand même des choses honorables. Et tout comme la vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Et il faut que cela soit l'objet de nos pensées. Et puis il va continuer et il va dire que tout ce qui est juste, c'est encore une fois juste, non, pas, non simplement en ce que moi je trouve juste. Parce que moi, je peux trouver que quelque chose est juste, mais bon, j'ai une partie, je ne vois pas clair. Et là, quelque chose que moi, je peux penser est juste, en réalité, peut s'avérer ne pas être juste. Et il dit que tout ce qui est juste. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'injustices. Ne vous faites pas l'idée que tout était justice, qu'aujourd'hui on est dans le pire des conditions, que c'est vraiment l'injustice là, et que dans le passé c'était toujours justice et tout. Non, non, non. Il y avait beaucoup d'injustices. Paul, il savait très bien de quoi il parlait. Comme j'ai dit, lui, Silas, jeté en prison de manière injuste. Ils avaient fait le bien. Ils avaient chassé un démon d'une jeune fille. Et il l'avait délivré. Et parce que ses maîtres étaient jaloux, ben là, il le jette en prison. Quelle injustice! Souffrir pour avoir fait le bien, mais y a-t-il de pire injustice? Et là, Paul, il a dit, il ne faut pas se focaliser sur l'injustice. L'injustice, il y en a tellement autour de nous. Non, non, on n'a pas besoin de se focaliser là-dessus. Non, on se focalise sur la justice. Et non seulement, et non la justice des hommes, mais la justice selon Dieu. Cette justice que Dieu, gloire à Dieu, va rétablir quand il reviendra, mais cette justice, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Pour le chrétien, malgré toute l'injustice qu'il voit autour de lui, et on en voit, comme j'ai dit, les coupables qui sont relâchés, les innocents qui restent enfermés, les magouilles, tout ce qui se passe au niveau de l'injustice, et on le voit. Et si on ne fait pas attention, ben on se laisse un peu submerger par cela. Et il faut revenir à la justice. Justice selon Dieu. Et puis, il va relever dans la phrase qui suit quelque chose qui est extrêmement important. Il dit tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Et là, encore une fois, bien sûr, pureté, non pas vis-à-vis du monde, parce que le monde ne sait pas du tout ce que c'est la pureté. Non, non, non. C'est la pureté selon la parole de Dieu, selon Dieu. Et combien il est difficile pour nous aujourd'hui de sortir, regarder autour de nous et regarder les choses qui sont pures. N'est-il pas vrai qu'autour de nous, nous regardons les affiches, nous regardons la publicité, que ce soit dans les magasins, sur la route, à la télé, ailleurs. Et qu'est-ce que nous voyons? Voyons-nous la pureté? Non, nous voyons plus l'impureté. À la fois chez les hommes, chez les femmes. Et ici, Paul dit aux chrétiens de Philippe que tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur, et cela n'arrive pas par hasard. Tout comme pour les autres, et on reviendra sur ce point. Mais ici, pour avoir ces pensées pures, pour se focaliser sur ces choses pures, il y a un effort. Cela ne vient pas tout seul. Qu'est-ce qui vient tout seul? Qu'est-ce qui est le plus facile? C'est de se laisser entraîner avec le courant du monde vers ce qui est impur. Mais non, pour aller à contre-courant, là, il y a de l'effort, mais il faut le faire parce que Paul dit que tout ce qui est pur et de réfléchir qu'est-ce qui occupe vos pensées. Sont-elles des pensées pures? Et ne vous limitez pas à l'idée dans ce sens pur au niveau sexuel. Bien sûr, les chrétiens sont appelés à cela, mais pur en ce qui concerne peut-être quelqu'un d'autre. Pur en ce qui concerne le travail, pur dans ce qui concerne sa famille, chaque domaine, nos pensées sont-elles pures. Puis il dit tout ce qui est aimable. Alors le mot qu'il emploie ici, c'est assez intéressant. C'est littéralement ce qu'on va traduire comme bien dit. bien dit. Quelque chose agréable à entendre. Donc, aimable, ici. Et bien sûr, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Beaucoup de choses qui sont aimables. Vous passez un peu de temps sur Internet, il y a plein de choses qui sont bien, qui à la fois sont bien dites et sont agréables d'entendre, mais en même temps, il y a beaucoup qui ne le sont pas. Et Paul dit ici aux chrétiens de Philippe, tout ce qui est aimable, tout ce qui est à la fois bien dit par nous pour quelqu'un d'autre, mais aussi dit à nous, que quelqu'un d'autre va dire à nous. Et il dit, faire attention, on peut dévier très vite ici, il faut renouveler cette volonté de chercher dans ses pensées les choses aimables, qu'on apprécie, revenir dessus, et pas simplement notre nature charnelle, mais cette nouvelle nature née de Dieu, ce qui lui est aimable. Et puis, il va terminer cette partie de la liste en disant tout ce qui mérite l'approbation. Et je suis convaincu que quand il dit cela, il y a ces deux niveaux différents, tout ce qui mérite l'approbation déjà au niveau des hommes. Imaginez-vous, là, vous êtes en train de faire quelque chose et quelqu'un de l'église survient et vous voit en train de faire telle ou telle chose. Auriez-vous honte? Si oui, il vaudrait mieux ne pas le faire. Si non, si un frère ou une sœur survient et là, vous pouvez ensemble faire telle ou telle chose, gloire à Dieu, formidable. Donc, ceux qui méritent l'approbation des hommes, imaginez-vous que vous êtes dans les pensées de quelqu'un d'autre. Là, c'est une pensée effrayante, n'est-ce pas? être dans les pensées de quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un venait dans vos pensées, auriez-vous honte? Parce que si nous sommes honnêtes, assez souvent, on va devoir répondre oui. Mais ce n'est pas simplement l'approbation des hommes. Qu'est-ce que les hommes penseraient de moi? Mais, bien sûr, l'approbation de Dieu. Parce que nous n'avons pas besoin d'imaginer, ah, peut-être si un frère ou une sœur survient à ce moment-là, on ne sait pas si je serai tout seul ou pas, ben, nous n'avons pas besoin de poser cette question avec Dieu. Dieu, il est toujours avec nous. Dieu, il est toujours là. Et soit il approuve ce que nous faisons, soit il désapprouve. Et bien sûr, cela est lié aux gestes et aux paroles, mais c'est aussi lié aux pensées. Dieu est dans nos pensées. Vous y réfléchissez de temps en temps? Je suis convaincu, si on y réfléchissait un peu plus, ben, on ferait plus attention à nos pensées. Mais Dieu est dans nos pensées. Nos pensées ne lui échappent pas. Et est-ce que nos pensées toujours méritent l'approbation de Dieu? C'est une question sérieuse qu'il faut se poser. Dans ce monde qui rejette de plus en plus Dieu, qui ne se fait aucun cas de Dieu, qui se moque complètement de ce que Dieu pense, eux, ils ne cherchent pas l'approbation de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, entraînés par cette pensée-là, nous aussi, nous pouvons commencer à ne pas trop se préoccuper de ce que Dieu pense, de nos pensées. Mais Paul dit que tout ce qui mérite l'approbation, à la fois des hommes et aussi de Dieu. Et puis, pour terminer cette liste, il va changer sa formule un peu, parce que la manière dont Paul s'exprime ici, quand il parle de ce qui est vertueux et digne de louange, il va mettre cela au conditionnel. C'est littéralement ce qu'il dit, si il y a de la vertu, si il y a de la louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Et c'est au conditionnel, mais en fait, la manière dont Paul s'exprime, il est convaincu qu'il y en a. Parce qu'on pourrait se poser la question. Il dit, s'il y a de la vertu, et on regarde autour de nous et on se dit, mais notre société aujourd'hui, elle est tellement mauvaise, elle est partie si loin de Dieu que, non, il n'y a pas de vertu autour de nous. C'est pas possible. Et pourtant, Paul dit, oui, s'il y a de la vertu, et il y en a, s'il y a des choses dignes de louange, et il y en a, c'est littéralement ce qu'il est en train de dire ici, que cela soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de vos pensées. Tout ce qu'il a dit, vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite approbation, et s'il y a ces choses vertueuses et il y en a, s'il y a ces choses dignes de louange et il y en a, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Et ce qui m'impressionne à chaque fois avec ce verset, c'est la totalité de ce que Paul dit. À chaque fois, il dit que tout, ce n'est pas juste une petite partie, et puis il dit que ce soit l'objet. Et notez bien, que ce soit l'objet, non pas un objet parmi d'autres. On peut avoir plein d'objets, plein de buts. Mais là, il dit que tout cela soit l'objet, l'unique objet de vos pensées. Parce que c'est dans les pensées du cœur que tout commence. Nos gestes, nos paroles ne font que révéler ce qui est dans notre cœur. Notre attitude, en fait, ne fait que refléter ce qui est déjà en nous. Et ce qui est en nous, ce sont bien sûr nos pensées. Et si nous ignorons ce verset, et si nous pensons que nous pouvons nous passer de ce verset en disant, bon, je ne ferai pas trop attention à mes pensées, bon, je ferai un peu, mais pas trop, mais bon, je vais quand même pouvoir parler et agir comme il faut. Non, on ne peut pas dissocier les deux. Peut-être on pourra pendant un certain temps, mais cela ne peut pas continuer. Et pour le dire, ici, l'objet, l'unique objet de nos pensées doit être, en un mot, ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui est conforme au caractère même de Dieu. Et il dit, voilà, Voilà à quoi vous devez travailler. Voilà ce qui doit préoccuper vos pensées. Et si nous faisons le bilan, si nous nous examinons nous-mêmes, qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? Bien sûr, notre travail. Bien sûr, ben, nos activités de la journée. Nos activités de la semaine qui vient. Ben, la famille occupe nos pensées. On espère que l'Église et Dieu occupent une partie de nos pensées. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas. Et Paul nous appelle ici, chacun, à se remettre en question et de se dire, je dois changer mes pensées, je dois veiller, il y a un changement dans ma vie que je dois faire parce que mes pensées doivent être focalisées sur ces choses-là. Et c'est tellement dur parce que, comme j'ai dit, notre société nous pousse à nous focaliser sur plein d'autres choses, nous propose tout le contraire de ce que nous voyons dans ce verset. Notre société nous propose totalement le contraire. Et pour le chrétien, aujourd'hui, il faut renouveler cet engagement tous les jours en disant « Je me lève le matin et je vais me focaliser de manière intentionnée aujourd'hui sur ces choses-là. Je vais me focaliser dans mes pensées sur la parole de Dieu. Les versets que j'apprends, les versets que je lis, ben, aujourd'hui, je vais me focaliser là-dessus parce que ça, c'est la vérité. Le caractère de Dieu. Je vais me focaliser sur cela parce que cela est honorable. Dieu lui-même, je vais me focaliser sur cela parce que lui, il est pur. Je vois l'impureté autour de moi et je dois me garder de cela. Et je peux le faire parce que je me focalise sur Dieu parce que lui, il est pur. Et pour chacune de ces choses, sur cette liste, du premier jusqu'à la fin, digne de louange, bien sûr, là c'est Dieu. Dieu, il est totalement digne de louange. Et ce sont nos pensées qui doivent changer. Parce que pour le dire, le monde veut nous faire réfléchir et que d'autres choses soient l'objet de nos pensées, mais non, là, ce sont ces choses ici. Et il y a ce beau verset 8, il est vraiment formidable. Je l'apprécie parce que, à la fois, c'est, dans un sens, c'est une reproche pour moi, où Dieu me dit, voilà, tu ne fais pas exactement ce qu'il faut. Il faudra changer. Et par la grâce de Dieu, on peut. Mais au-delà de cela, ce verset 8 est entouré de plusieurs versets qui font ressortir toute l'importance et à la fois toute la beauté de ces versets. Parce que, remontons au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Voilà donc nos pensées focalisées sur la prière à chaque instant. Et puis, verset 7, regardez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardez dans votre esprit cette paix de Dieu. Et puis, regardez verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce verset 8 sur les pensées, où Paul appelle à un changement, où il faut refocaliser ses pensées, il va entourer ce verset-là avec cette idée de la paix de Dieu. Il va dire lorsque on se confie en Dieu, lorsqu'on s'en remet à Dieu, et lorsque on met en pratique ce que Dieu dit parce qu'on se serait focalisé sur lui, à ce moment-là, Dieu lui donne sa paix dans n'importe quelle circonstance. Souvenez-vous, c'est un homme qui est en prison en ce moment-là, qui avait subi la prison chez les Philippiens, et il peut parler de la paix de Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il aurait pu se focaliser sur mille et une autre chose. Mais il dit non, je choisis de manière intentionnée de me focaliser sur ces choses. Que ces choses-là soient l'unique objet de ma pensée chaque jour. Et à cause de cela, l'église de Philippe, ben, par la suite, va recevoir des éloges. On va dire beaucoup de bien sur l'église de Philippe. Et je suis convaincu ça en partie, c'est parce que cette Église a suivi les directives de Paul. Paul les a encouragés, les a même donné ce commandement, que ces choses soient l'objet de leur pensée. Et je suis convaincu, ils l'ont fait. Et cela a emmené un grand changement dans leur vie. Parce que déjà, ils ont changé leur pensée. Et la question à se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Quelle pensée en moi doit changer? Parce que je suis convaincu que chacun a des pensées qui doivent changer. Quelles sont ces pensées? Et puis, de les remplacer par celles que nous voyons ici. Ce qui est vrai. Ce qui est honorable ou ce qui est révéré, ce mot-là. Juste, pur, aimable, mérite approbation, vertueux, digne de louange. Tout cela, d'examiner chaque pensée et dire, est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Si oui, gloire à Dieu, continuons. Sinon, il faudrait enlever ces mauvaises pensées, parce que ces mauvaises pensées vont se manifester à travers de mauvaises paroles, de mauvais gestes, vont faire obstacle à notre relation avec Dieu, vont limiter notre prière, vont enlever la paix que Dieu veut nous donner. Et pour le dire, renouvelons nos pensées. On va dire plus ou moins la même chose dans Romains chapitre 12, où notre intelligence est renouvelée, et renouvelée parfois, bien sûr, la parole de Dieu. Et du coup, pour nous aujourd'hui, ceci est tellement important. Alors que nous voyons notre société aller de mal en pis, il faut la plaindre. Il ne faut pas rester indifférent. Mais en même temps, il ne faut pas du tout dire il n'y a rien que je puisse faire. Non, je dois me garder pur moi-même. Je dois changer mes pensées par la grâce de Dieu. Que Dieu change mes pensées en moi. Il faut le dire, voilà. Cette liste où il la donne aux chrétiens de Philippe, presque 2000 ans plus tard, nous avons cette même liste que nous pouvons mettre en pratique. Ceci ne reste pas quelque chose de théorique, non, c'est très terre à terre. Et aujourd'hui, demain, pendant toute cette semaine, nous allons faire face à des circonstances qui vont faire monter des émotions, des sentiments, soit de joie, de frustration, d'irritation, autre, et à ce moment-là, se dire, ah non, non, non. Quand je sens remonter ces choses, je focalise mes pensées sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Parce que lui et sa parole doivent être l'objet de mes pensées à chaque instant. Et ainsi, j'aurai cet impact qu'a eu les chrétiens de Philippe, les chrétiens du 1er siècle. Lorsque je renouvelle mon intelligence, lorsque je change mes pensées plus exactement, que je laisse mes pensées changé par la grâce de Dieu. Voilà, prions. Oui, Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Tu vois notre cœur, Seigneur, tu vois nos pensées, tu vois les changements qui doivent s'opérer en nous. Et que par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous aider à faire ces changements, que nous ne soyons pas résistants, que nous ne soyons pas indifférents, mais au contraire, Seigneur, que nous puissions prendre cette décision aujourd'hui de faire de toi et de ta parole l'objet de nos pensées, de ne plus nous laisser influencer par le monde, par les circonstances qui nous entourent.